donner une voix à celles qui n'en ont pas. Un vendredi sur deux à 18h, Radio Campus Paris, 93.9 FM.
Bonjour à toutes et à tous et merci d'écouter Campus Paris, l'émission « Donner une voix à celles qui n'en ont pas ». Et c'est Thomas Abel-Alfaoui qui réalise l'émission.
Bonjour Mani.
Bonjour Thomas, comment vas-tu aujourd'hui Thomas?
Très bien, merci. Ah, ravie d'être là.
Ah oui, ça s'entend, t'es tout souriant, ça fait plaisir. Ça fait chaud au cœur, c'est important, des gens qui donnent chaud au cœur. Noam est avec nous. Noam, bonjour.
Bonjour.
Bonjour, je suis ravie de t'entendre, on t'a pas entendu la semaine dernière,
aussi, hein.
Alors là c'est une joie, c'est une joie. Nous accueillons aussi Alexandra, bonjour.
Bonjour à tous, bonjour Moni.
Bonjour, quelle joie, quelle joie. Donner une voix à celles qui n'en ont pas, ce sont les femmes déficientes visuelles, les femmes handicapées qui subissent parfois des violences, des maltraitances et dont la plupart du temps elles ne trouvent aucun recours pour pouvoir en parler. Alors on peut s'interroger, se dire pourquoi, qu'est-ce qui fait qu'elles peuvent moins se défendre que d'autres. Mais d'abord les autres, c'est pas évident qu'elles puissent se défendre, hein. Si c'était le cas, il n'y aurait pas autant de femmes qui resteraient sous le coup des coups de leur mari par exemple. Et aussi, elles sont plus démunies que d'autres femmes dans la mesure où elles sont souvent isolées et pour trouver de l'aide, c'est beaucoup plus compliqué. Alexandra, bonjour. Rebonjour.
Rebonjour.
Alexandra, c'est une joie de vous recevoir.
Merci.
Alexandra, vous êtes déficiente visuelle?
Oui, absolument.
Voilà, et on va un peu parler de votre déficience visuelle pour permettre aux auditeurs de Campus Paris de mieux connaître, d'avoir un peu une proximité avec les personnes handicapées visuelles. Vous êtes déficiente visuelle, alors la question que posent tous les valides, quelle que soit la personne, dès qu'on est déficient visuel, les gens vous disent « c'est de naissance ?» Ben non, pas toujours. C'est pas de... Mais en même temps, c'est normal, c'est une question de valide, mais c'est une question légitime, même si quand on est déficient visuel, on se dit « mais il faudrait un peu varier vos questions », mais non, rassurez-vous, c'est tout à fait légitime. Nous-mêmes, on répète la même chose pour d'autres personnes qui ont d'autres difficultés. Alexandra, donc vous, ça s'est passé quand?
Alors en fait, moi je suis malvoyante de naissance, donc j'ai toujours vu un tout petit peu. On va dire que j'ai eu une acuité d'à peu près 2 dixièmes à l'œil droit et 1,5 à l'œil gauche jusqu'à l'âge de, on va dire, une quarantaine d'années. Et d'accord. Après,
du coup, ça vous permet, parce que il y a certains déficients visuels, malvoyants, comme vous, qui se déplacent avec des cannes, avec un chien guide, ou pas du tout. Parfois, le handicap visuel n'attaque pas forcément le champ visuel. Parfois, les déficients visuels, les malvoyants n'ont pas besoin de quelque chose pour se déplacer. Parfois, c'est pour d'autres choses qui sont un peu limitées. Donc, vous, c'est à quel niveau que ça pose vraiment souci? Vous avez, tout d'abord, vous avez une canne, vous avez un chien guide.
Alors, en fait, moi, c'est vrai qu'au cours de ma vue a baissé, mais en fait, j'ai jamais eu de vision binoculaire, donc j'ai jamais eu un très grand champ visuel. Et en plus, je n'ai jamais vu les reliefs de ma vie. Et même avant que ma vue ne baisse, la nuit, je ne voyais strictement rien. Mais j'ai pris la canne blanche à l'âge de 30 ans.
Donc ah oui, assez tard quand même.
Très tard.
Mais ouais. C'est comment, j'arrive pas à me représenter, c'est comment ne pas voir les reliefs?
C'est-à-dire qu'on arrive à distinguer certaines choses, mais les marches, on ne les voit pas.
Ah ok, d'accord, très bien. Voilà, c'est précis, quoi. Ça c'est clair, ça, ouais. c'est tout à fait parlant. Donc, vous avez eu besoin d'une canne à l'âge de 30 ans. Et auparavant, ça se passait comment?
Auparavant, comme je n'avais quasiment jamais vécu, si je puis dire, dans le monde des déficients visuels, et que j'avais quand même
Voilà, c'est ça, c'est important. Donc, jusqu'avant 30 ans, vous étiez dans un... Enfin, moi, ça me chagrine toujours un peu quand on parle de monde, parce que même quand on est non-voyant, on ne vit pas dans un monde parallèle. On vit dans le même monde que tous. Voilà, mais je ne sais pas comment on peut le nommer. Mais aussi, il faut arrêter avec ça, avec ces stéréotypes. C'est un peu aussi le but de l'émission, c'est d'arrêter avec ces clichés, mais qui ne sont pas forcément véhiculés par les valides. Hein. Souvent, c'est véhiculé par les déficients visuels eux-mêmes. Hein, on est les premiers à parler de monde, de non-voyants, machinalement, spontanément, parce qu'on a été un peu aussi éduqués comme ça. Alors que... j'ai pas de solution à apporter aujourd'hui, mais voilà, en tout cas ce qui est sûr,
en fait, pour répondre à la question, j'ai commencé à fréquenter des personnes déficientes visuelles à l'âge de 26-27 ans.
D'accord. Donc votre scolarité primaire, maternelle, primaire, etc., vous l'avez fait dans un cursus classique, ordinaire?
Absolument, j'ai fait ma scolarité, je me souviens pas de mon année de maternelle, mais bon, je sais qu'à partir de l'âge de 4-5 ans, j'ai commencé à aller à l'école comme tout le monde, comme les valides. Alors, j'étais en cursus privé, mais je n'étais qu'avec des valides.
D'accord.
Et pour moi, je dirais que même mon handicap visuel, je n'en avais absolument pas conscience.
Ah oui, c'est intéressant ça, c'est-à-dire
Pour moi, je crois que j'avais même pas conscience que les autres enfants voyaient différemment que moi.
Oui, oui, oui.
Voilà.
Enfant ou tout le temps? Pas ado quand même?
Non, pas ado, mais c'est vrai qu'enfant, jusqu'à je ne sais pas quel âge, j'ai même pas pris conscience d'avoir un handicap.
Oui, donc, oui, c'est intéressant, ça fait penser aux enfants valides de parents handicapés. En fait, ils n'ont pas conscience que leur parent est handicapé. C'est quand ils sont confrontés aux autres enfants qu'ils découvrent ces mots assez violents, ta mère est aveugle, ton père est comme ci. En fait, ils n'ont pas conscience qu'ils vivent avec un parent handicapé, en fait. Et vous, c'est différent, vous, c'est vous-même. Dans votre histoire, enfant, on ne vous a pas renvoyé le fait. Ce n'est pas des termes avec lesquels vous avez grandi.
En fait, non, parce qu'au départ, en plus, comme j'avais une petite acuité visuelle, l'ophtalmo qui me suivait à l'époque a dit à ma famille, vous la mettez en école, entre guillemets, classique, et puis elle va se débrouiller. Puis c'est vrai qu'au départ, les premières années, ça se passait tellement bien que ce soit en CP, j'avais une institutrice qui était fabuleuse et qui me portait même pour que je puisse écrire au tableau. Donc,
Ah oui.
Donc au début, c'était fabuleux.
D'accord. Donc, vous avez continué comme ça jusqu'à... Vous avez suivi vos études jusqu'à l'âge de 30 ans. Et à 30 ans, quel a été le
En fait, ce qui s'est passé et ce qui amènera aussi le sujet de l'émission, c'est qu'à l'âge de 9 ans, là, j'ai subi...
On va y revenir, mais oui. Un peu plus tard. Je voudrais que là, qu'on parle précisément de votre déficience visuelle pour qu'on sache bien quelles sont les difficultés auxquelles vous avez été confrontée, les écoles. À 30 ans, vous faites quoi? Vous rentrez dans la vie active? Qu'est-ce qui se passe?
En fait... Non, j'ai commencé à rentrer dans la vie active, je devais avoir 20 et quelques années, mais là j'ai eu une remise en question moi-même, où là je me suis vraiment rendu compte que j'avais un handicap. Là où je rencontrais quand même des difficultés, c'est que parfois je me retrouvais en difficulté dans la rue et à ce moment-là, les gens ne comprennent pas ce qui vous arrive.
Est-ce que votre déficience visuelle avait évolué? Qu'est-ce qui fait que d'un coup, à 30 ans, le regard sur vous-même change?
Alors, à ce moment-là, mon handicap visuel n'avait pas évolué, mais ça faisait quand même des années que je me battais, que je voyais pas les reliefs, que je voyais pas la nuit. Et en fait, il y a eu un épisode très étrange où c'était en plein hiver, en plein mois de décembre, il pleuvait et il a fallu que... Et c'était le soir, donc il a fallu que je me rende quelque part pour rendre un service. Évidemment, pas de canne blanche. Et sur le trajet du retour, j'étais mais vraiment à 20 mètres de chez moi. Pas de canne blanche, je ne voyais rien. Et là, je me suis fait agresser.
Oui.
Et ce jour-là, j'ai dit, ça suffit, maintenant je prends une canne blanche et je la quitte plus.
Oui, oui. Ça montre à quel point c'était compliqué. C'est compliqué parfois de, d'utiliser cette fameuse canne blanche, d'utiliser les accessoires en fait nécessaires, surtout quand on y voit encore. Quand on est non-voyant, on n'a pas le choix. Quand on perd définitivement la vue, il n'y a pas le choix. Soit on prend sa canne, soit on fait une espèce de petite formation pour savoir utiliser une canne ou un chien guide, et on retourne dans la vie active avec ça. Mais quand on y voit encore, c'est très compliqué parce qu'il faut négocier avec soi-même. On a du mal avec cette image de nous qui change avec cette canne parce qu'on y voit encore, donc on se dit on voit aussi le regard des autres sur soi. Et en ça, je sais pas ce que vous en pensez, Alexandra, mais je sais que évoluer peut-être même à un moment donné de manière ponctuelle avec des déficients visuels, quand on perd la vue, ça c'est aidant parce que moi je sais que quand j'ai perdu la vue, quand j'étais comme vous, malvoyante, ce qui m'a aidée, c'est à prendre la canne, alors que j'étais comme vous, hein, la nuit j'étais perdue, la nuit c'était le cosmos. Je suivais les gens quand j'étais en groupe, de toute façon j'évitais d'abord de circuler la nuit, et ensuite je suivais les gens je suivais vraiment de près pour pas qu'il m'arrive quelque chose, pour savoir si ah tiens elle descend une marche, je mettais en œuvre tout ce que vous mettez en œuvre, et c'est énorme, c'est un contrôle incroyable. Et donc je vous disais que ce qui m'a beaucoup aidée, c'est un jour je me suis rendu compte qu'il y avait, parce que ça, la canne blanche quand même, faut être honnête, ça vous calme, hein, au niveau de la féminité, hein. ça vous calme tout de suite, hein.
Ça calme,
voilà. En plus, quand vous voyez le regard des gens sur vous, ça, c'est plus le même, quoi, hein. C'est
c'est autre chose, voilà. Effectivement,
absolument. Et donc un jour j'ai rencontré là-bas dans un foyer, parce qu'on était étudiants, dans un foyer de déficience visuelle, et j'ai croisé une femme charmante, absolument charmante, vraiment, hein, dans toute sa splendeur. Et elle disait, attends, je sors ma canne parce que là il va faire nuit et je vais avoir du mal. Et ça m'a aidée. Je me suis dit, si elle le fait, moi je peux le faire aussi. Ça m'a beaucoup aidée. C'est en ça que les autres, parfois, ils peuvent beaucoup nous aider aussi à avancer dans la vie.
Absolument. Et moi, je sais que le jour où j'ai pris ma canne blanche, y a des gens qui sont venus d'instinct demander si j'avais besoin d'aide.
Voilà. On va poursuivre tout de suite ce que vous dites. On fait une pause musicale. Vous avez choisi Yalla. De Calogero. On va écouter tout de suite Calogero et on revient tout de suite sur votre parcours.
On ne retient pas l'écume dans le creux de sa main. On sait la vie se consume et il n'en reste rien. D'une bougie qui s'allume, tu peux encore décider du chemin, de ton chemin. Crois-tu que tout se résume au sel d'entre nos doigts, quand plus léger qu'une plume, tu peux guider tes pas, sans tristesse ni amertume, avance et avance, puisque tout s'en va, tout s'en va. Soleil dans le cœur des enfants, sans nulle autre joie pareille, ni sentiment plus grand. Un mot d'amour à l'oreille peut en chacun réveiller un volcan pour qui l'entend. Yala, 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 yala. Elle m'emmène avec elle, je t'emmène avec moi. Yala, tu trouveras le soleil dans le cœur des enfants.
Yalla de Calogero.
Donnez une voix à celles qui n'en ont pas. Un vendredi sur deux à 18h, Radio Campus Paris, 93.9 FM.
Merci, merci Thomas Belalfaoui qui réalise l'émission. Merci infiniment. Alors, Noam, avant de reprendre notre conversation avec Alexandra, Noam, peut-être peux-tu communiquer à nouveau les numéros de téléphone aux auditeurs et auditrices qui écoutent l'émission et qui auraient peut-être envie de conseiller à leurs amis, à leurs sœurs, à leurs frères, enfin à leurs grands-parents, à leurs grands-mères, ben, des solutions d'aide à travers ces numéros.
Oui, bien sûr. D'abord, on a le centre d'appel et de conseil sur la déficience visuelle au 0800 013 010.
Voilà, c'est un numéro que vous pouvez composer pour tout problème autour de la déficience. Si vous avez des questions, des interrogations, vous pouvez appeler ce numéro, ils vous conseilleront. Ensuite,
nous avons le 39 77 qui a pour mission d'agir contre les maltraitances des personnes âgées et des adultes en situation de handicap.
Voilà, un numéro précieux.
Et oui. Enfin, nous avons le numéro de SOS Amitié, un service d'aide par l'écoute, au 09 72 39 40 50.
Voilà, ça c'est pour tous les auditeurs de Campus Paris qui, même en étant étudiant, s'il y a des moments, à un moment donné de sa vie, on ne se sent pas bien, on se sent un peu, ou seul, parfois seul, un peu découragé, un peu. Vous pouvez appeler ce numéro, vous allez entendre des gens bienveillants qui vont vous soutenir, qui vont vous encourager et qui vont vous aider à poursuivre votre route. Voilà, et c'est pas spécifiquement pour les personnes handicapées. Ce numéro est vraiment pour tout public et notamment pour les étudiants de Campus Paris. Voilà, merci. Alors, merci Noam, merci infiniment. On va revenir vers Alexandra. Alexandra, vous êtes déficiente visuelle, vous oui. êtes malvoyante oui. et vous avez évolué dans une scolarité de valide et à l'âge de 30 ans, vous n'avez plus le choix, vous devez utiliser une canne. Face à la brutalité que vous subissez, ça devient important pour vous d'informer finalement l'extérieur que vous êtes déficiente visuelle puisque vous vous déplaciez auparavant sans canne alors que vous aviez une déficience visuelle assez importante quand même.
Oui, puis comme je disais, il a fallu que je me fasse agresser quasiment en bas de chez moi pour décider de prendre une canne blanche. C'est quand même un peu dommage, quoi. Et c'est vrai que même dans ma famille, j'ai eu un peu de mal à la faire accepter, la canne. Mais bon, bah, j'ai dit, moi, je me protège. Je pense d'abord à ma protection.
Oui. Et pour ceux qui nous écoutent, c'est important ce que vous dites, Alexandra, parce que pour ceux qui écoutent, évidemment, ce qui arrive à un membre de la famille arrive à tous les autres. Mais c'est important d'aider les personnes handicapées qui essaient de trouver des solutions pour pouvoir continuer leur vie. C'est important de les encourager, de les aider, parce que c'est pas simple. C'est pas simple, certainement. Moi, je suis pas spécialisée des fauteuils roulants, mais je sais que pour la canne blanche, franchement, il y a des choses beaucoup plus simples que ça. Et si en plus autour de soi, ses proches sont là en train de dire « Ah ouais, non mais non, on la prend pas, non mais j'aime pas quoi bah, », c'est compliqué pour l'autonomie et pour la vie de la future adulte.
Alors, bah, oui, c'est comme si on disait à quelqu'un qui est en fauteuil roulant « Bah non, ne prends pas ton fauteuil. »
Voilà, dans ces cas-là, on lui dit bah, ne sors pas de chez toi, parce que c'est
voilà,
ça que ça veut
c'est
dire.
Ça. Donc,
vous retrouvez confronté à de la maltraitance, hein, vous faites agresser.
Oui.
Et là, vous prenez conscience qu'il faut, il n'y a plus à tortiller, vous devez prendre votre canne. On sait que c'est à la fois pour soi, mais aussi pour prévenir le public que vous êtes déficiente visuelle. Hein, parce que c'est vrai que quand on est malvoyant, eh bien on a parfois on n'a pas un regard de valide et on n'a pas un regard de non voyant. Donc les gens ils se demandent ce qu'on a, est-ce qu'on a fumé, est-ce que et non
c'est voilà. Si on est bourré, si
voilà. Et chez les commerçants c'est pareil. Hein, quand vous voyez des personnes s'approcher de manière particulière par rapport à un paquet, etc. C'est juste que la personne est déficiente visuelle et donc voilà. Les déficients visuels n'ont pas un comportement d'adulte et d'adulte n'importe quoi. Non pas un comportement de voyant, mais ils n'ont pas non plus un comportement de non-voyant. Donc ils sont compliqués à saisir. Alors après cela, qu'est-ce que vous mettez en œuvre, Alexandra? Après cette épreuve, vous devez prendre votre canne. Bon, c'est pas simple.
Ah bah après.
Est-ce que votre vie sera lancée après? Est-ce que vous allez progressivement utiliser votre canne et avancer dans la vie?
Ah oui, bah après, je ne l'ai plus quittée.
Voilà.
Donc, quitte à ce que ça fasse un peu peur à certaines personnes, effectivement. Surtout que j'ai évolué toute ma carrière professionnelle entre guillemets est dans le domaine artistique. Et donc quand un metteur en scène voyait une femme avec sa canne blanche, mais qu'est-ce qu'elle va nous faire?
Oui, c'est ça. Mais faut pas oublier que en fait pour ceux qui voient la canne, eux ils la regardent, donc ils voient un truc bizarroïde, mais pour une personne non voyante c'est un outil pour pouvoir se déplacer. Alors, Alexandra, on va faire marche arrière, si vous voulez bien, et parler d'une chose qui s'est passée dans votre enfance, qui a été assez douloureuse. Vous avez connu de la maltraitance dans votre enfance?
Absolument. En fait, comme je disais, mon parcours en primaire s'est très très bien passé jusqu'en CM1. Où là, j'ai eu une institutrice qui avait eu elle-même la poliomyélite.
Oui.
Et moi, à cette époque-là, donc j'avais 9 ans, j'avais pas conscience de mon handicap et j'étais une enfant très heureuse de vivre. Je riais tout le temps, je souriais, je m'amusais avec
elle. Vous avez toujours cette joie de vivre, hein, elle s'entend, c'est toujours présent.
On essaie parce que c'est parfois pas toujours facile, mais bon. Et donc. Et en réalité, cette institutrice n'avait pas accepté son propre handicap. Donc, elle n'a pas supporté que moi, malgré mon handicap, je puisse être heureuse de vivre.
Souvent, ce qu'on rejette à l'extérieur de soi, c'est ce qu'on rejette en soi, en fait.
Voilà. Et donc, pendant une année, elle m'a fait vivre une sorte de harcèlement, des sévices. Alors, il y en a que j'ai oublié. Mais je sais que... déjà, avec les élèves en général, elle était assez particulière. Mais je sais qu'une fois, par exemple, Elle m'a fait allonger au fond de la classe, tout ça parce qu'on avait fait une peinture et je ne sais absolument pas ce que j'avais fait, je pense rien du tout. Mais j'avais dû sûrement bien la faire et elle s'est dit non, c'est pas possible. Une fois aussi, elle avait fait un truc très particulier et ça, ça m'a marqué, mais à un point inimaginable. Oui. On n'était que des filles, parce que j'étais en cours en école privée, donc on était entre filles. Et ça lui a pris comme ça. Elle a demandé à chaque élève d'écrire sur un bout de papier la fille la plus sympathique de la classe et la fille la moins sympathique de la classe.
C'est un peu pervers. Hein.
Alors déjà, je trouve que c'est très pervers. Elle avait appelé ça prix orange, celui de la plus sympathique, et prix citron, celui de la moins sympathique. J'ai réalisé il y a très peu de temps que le vote avait dû être trafiqué, parce que comme par hasard, le prix citron, c'est tombé sur moi.
Ben oui.
Et c'est vrai que...
Et donc, il se passait quoi? Vous vous retrouvez avec ça, vous avez tout le monde, tous les enfants qui vous pointent du doigt, bon...
Oui, on commence à se faire une... surtout, je comprenais pas ce qui m'arrivait, Mais le pire dans tout ça, c'est que moi, au départ, je n'osais pas en parler. Oui. Jusqu'au jour où, quand même, il s'est trouvé que ma mère a été mise au courant de ce qui se passait, des maltraitances qu'elle me faisait subir. Oui. Et un jour, donc, cette institutrice me demande carrément d'écrire un courrier à ma mère et à la directrice de l'école. Comme quoi, tout ce que j'avais raconté à ma mère était faux.
Oui, oui, oui.
Comme quoi, je lui avais menti. C'est arrivé dans le bureau de la directrice. Évidemment, heureusement, ma mère n'a pas cru pendant une seule seconde que j'avais pu lui mentir. Surtout qu'au départ, ces maltraitances, ça n'est même pas moi qui ai commencé à en parler, c'est une amie. Donc là, effectivement, elle a commencé à me questionner. J'ai dit, je ne sais pas pourquoi elle me fait ça, mais... ça n'est qu'à la fin de l'année que, effectivement, j'ai compris. Voilà.
Et... Oui. Et donc, votre maman est intervenue et ça a cessé?
Alors, en fait, il a fallu attendre la fin de l'année.
Oui.
On s'est retrouvés toutes les trois, ma mère, moi et cette institutrice, dans le bureau de la directrice.
Mm-hmm.
Et là, effectivement, j'ai dû rendre des comptes. J'ai dit non, j'ai pas menti. Et à la fin de l'année, il y avait une... comme c'était dans une école privée, il y avait une remise de prix pour chaque élève, pour chaque classe. Et là, ma mère est venue parler à cette institutrice. Et là, l'institutrice, Madame Koenig, lui a dit clairement « J'ai eu la poliomyélite. Je ne supporte pas votre fille parce que malgré son handicap, elle est heureuse de vivre. »
Voilà. En tout cas, Alexandra, merci infiniment de témoigner, parce que le fait de témoigner, ça aide beaucoup d'autres personnes qui traversent les mêmes difficultés, d'abord pour savoir qu'elles ne sont pas seules, parce qu'on a toujours l'impression, quand on vit quelque chose comme ça, qu'on est seul, et du coup, ça, on se rend coupable de ce qui se passe. Or, c'est tout sauf normal ce qui se passe. Merci infiniment. Je serais ravie de vous réinviter une prochaine fois. Peut-être, Alexandra, vous avez envie de rajouter quelque chose pour conclure ?
Oui, ce qui est dommage, c'est que en fait, on n'aura pas forcément le temps de parler de tout, mais même au collège... c'est vrai que quand vous êtes malvoyante, mais que vous ne portez pas de canne, mais que vous avez des grosses lunettes...
Oui, bien sûr, vous avez raison.
Il y a forcément des élèves qui, qui oui. vous traite de bigleux.
Ah ben aujourd'hui, enfin ça a toujours existé ça.
Ça a toujours existé.
Dès que vous êtes au collège, surtout le collège, c'est une période où dès qu'on est un tout petit peu différent, il faut vraiment ressembler, mais c'est ainsi pour les jeunes de cet âge-là. Mm. Alexandra, j'aurais vraiment beaucoup beaucoup de joie à vous réinviter une prochaine fois, vraiment, parce qu'on sent que vous avez beaucoup de choses à dire. En tout cas, merci d'aider à travers votre souffrance, votre douleur, ce que vous avez traversé, d'aider d'autres femmes à oser parler, oser raconter. Voilà à quoi ça sert de raconter ce qu'on a vécu. Ça sert à aider d'autres femmes et à savoir qu'elles sont pas seules à vivre. Mmh. Elles sont pas seules et c'est pas normal ce qu'elles vivent. Et le fait d'en parler, c'est une manière aussi de dénoncer ce qu'on peut traverser. Merci infiniment, Alexandra, d'être venue à Campus Paris. Merci à Noam. Noam, peut-être nous communiquer à nouveau les numéros avant de couper.
Oui, bien sûr. Alors du coup, le numéro d'SOS Amitié, c'est le 09 72 39 40 50. Le 39 77, qui a pour mission d'agir contre les maltraitances des personnes âgées et des adultes en situation de handicap. Et le 0800 013 010, le centre d'appel de conseil sur la déficience visuelle.
Merci infiniment Noam de ta présence, merci pour ton soutien, merci aux auxiliaires de nous avoir permis de t'avoir parmi nous. Je remercie aussi Thomas Belalfaoui pour la réalisation de l'émission. Merci du fond du cœur, merci à toute l'équipe de Campus Paris de nous accueillir et surtout merci à vous tous d'écouter Campus Paris, merci.
Donner une voix à celles qui n'en ont pas. Radio Campus Paris 93.9 FM.